Merci. Bon. Ben, c'est à toi. Merci beaucoup, Eva.
Oui. Ah, on peut commencer, Eva.
Non, mais là, on peut y aller.
Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas encore d'image, hein? Non. Ok, ça va venir. Ça apparaît? Ok. Allez, ça va venir. Ok, je voulais vous montrer quelque chose. Est-ce que ça apparaît? Non, ça n'apparaît pas. Bon, je dois le faire autrement parce que ça n'apparaît pas. Est-ce que ça apparaît? Oui, ça apparaît. Et est-ce que... Non, ça n'apparaît pas. Il y a bientôt un forum à Lyon pour ceux qui sont intéressés par la mission et aussi justement la question de la mission intégrale pour les églises et les œuvres chrétiennes sous le titre « Être, dire et faire ». Un forum proposé par les réseaux FMEF, la Fédération Missionnaire Évangélique de France, aux francophones, y compris la Suisse et la Belgique, et l'Association pour l'Action Sociale et Humanitaire, ASA, qui vont se réunir avec des intervenants très spécialisés dans différents domaines, soit de l'évangélisation, soit de l'action humanitaire, et le lien entre les deux, comment les faire travailler ensemble, parce que ce sont quand même deux réseaux un peu séparés, avec aussi des réflexions de fond, des ateliers, plusieurs ateliers, les enjeux de la mission intégrale pour les églises et œuvres chrétiennes. C'est être, dire et faire. C'est à Lyon, dans le domaine Saint-Joseph, près de Lyon. C'est un lieu magnifique. Donc déjà, pour se dépayser, c'est à conseiller. Mais ceux qui s'intéressent à cette question, je vous fais la pub. J'avais essayé de vous montrer le site, mais voilà. Mais sur Internet, il y a un site qui s'appelle Mission Intégrale. Donc c'est très simple. Vous tapez, vous googliez Mission Intégrale et vous tombez sur Mission Intégrale. Voilà. Maintenant, à vos Bibles. Maintenant, on va entrer dans un sujet que j'ai préparé. La question, mais qu'est-ce que la mission de l'Église? On a vu les changements qui se sont produits. Et on a vu aussi que ça pose non seulement des questions pratiques, mais encore une question de fond, mais c'est quoi exactement la mission de l'Église, qui est en quelque sorte à repenser au regard de la nouvelle situation qui est en train de se créer. Et dans... je dois encore, parce qu'il y a un problème de connexion, donc je dois réactiver cela. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Comme ça, je vois ce que je vous montre. Non, c'est pas ça. C'est pour Skype, mais c'est ça. Oui, ça va. Donc, il y a quelque chose de très remarquable qui se passe les dernières décennies. pendant très longtemps, il y a eu une divergence, voire une polarisation entre des milieux protestants évangéliques, les milieux œcuméniques, les églises catholiques et les orthodoxes, je n'en parle même pas, tellement ils se sont confrontés sur la question de la mission, ils se font la concurrence, ils avaient des différentes approches. On ne s'entendait pas, et pour faire des réunions dans la semaine de l'unité des chrétiens, ça relevait de l'exploit de trouver une base commune sur laquelle on pouvait quand même s'entendre pendant une heure dans une église. Tellement c'était difficile parce que les théologies, les habitudes, les traditions, et tout cela. Mais les dernières années, on voit que toutes ces dénominations, tous ces courants de l'Église se sont posés la même question et les opinions sont en train de se converger. Et les différences sont beaucoup moins. Qu'est-ce que j'ai fait de mal?
J'ai pile parce que ça fait un bout de temps que je change la pile. Parce que ça fait un bruit un peu sourd.
Ah, j'avais l'impression que les piles à moi étaient épuisées aussi. Mais, malgré le repas. Prenez votre temps.
Ça peut glisser sur l'autre.
Ah oui. C'est bien, hein? Il y a 50 personnes qui vous regardent. C'est... Ça rassure. Hein? Il faut régler les choses sans que la main tremble. Hein? C'est ça. Et vous le faites très bien. Merci. Ok. Et donc, ce nouveau regard se dessine partout. Et c'est parce que dans tous les courants de l'Église, on est d'accord sur presque, oui, sur un point, c'est qu'il faut trouver la réponse dans une théologie biblique. Donc, comme la Bible ne varie pas, on consulte les mêmes textes, les mêmes passages, et bon, on ne s'étonne pas de ce que parfois il y a les mêmes conclusions qui en sont tirées. Ça, là, le temps des miracles n'est pas révolu. Et alors, vous allez dans des institutions catholiques ou évangéliques. Ce qui m'arrive, j'étais invité avec... un copain à moi, c'est Christophe Paya de la faculté à Vaux-sur-Seine, d'être invité par la faculté de théologie de la catholique de Lyon, l'université catholique, qui ont monté un programme de master en nouvelle évangélisation, où on a dit qu'il faut un groupe de recherche pour soutenir cette formation destinés aux laïcs qui veulent se perfectionner en évangélisation, figurez-vous. Et on a besoin des évangéliques. Et on vous demande de ne pas cacher vos identités et votre identité, et vos habitudes et vos convictions, parce que c'est justement pour cela que vous invitez. Et donc on participe à ces travaux. Et c'est étonnant de voir à quel point les opinions convergent. Ça aurait été impossible ou même inimaginable il y a 20 ans encore. Donc il y a une convergence qui est en train de se faire. J'espère que ça va se produire aussi côté réformé, mais là les chemins sont encore plus difficiles à tracer. On n'en est pas encore là, mais on voit quand même une convergence. Donc ce que je veux partager, c'est une approche de la mission, une vision de la mission qui se dessine dans les milieux évangéliques, sachant que cette vision est largement partagée par d'autres courants dans l'Église. Et on peut s'entendre sur cela. Et on le voit notamment dans la jeune génération qui n'a pas mémoire et qui n'a pas souvenir de ces querelles théologiques autour de la mission et qui est beaucoup plus vite à s'entendre avec des jeunes venant d'autres horizons sur la question de la mission. Voilà. La question et plusieurs approches. Donc, rapidement, mission, comme j'ai dit, ça signifie envoyer, être envoyé, le grec apostelein est derrière, et la tâche à accomplir, mais tout dépend de ce qu'on met dedans. On est d'accord. Sur ce point, vous l'avez bien compris. Donc, comment définir la mission de l'Église? Très longtemps, il y avait l'approche des églises œcuméniques, anglicanes, luthériennes, calvinistes, réformées, et j'en passe, qui disaient « la mission aujourd'hui, c'est l'assistance mutuelle ». On ne fait plus œuvre pionnière, mais les églises dans les six continents, vont s'aider mutuellement pour faire œuvre missionnaire. Cette vision a été développée dans les années 60-70, et le principe est très clair. Une église dans le pays A va demander à une église sœur dans le pays B, est-ce que vous avez encore un docteur en théologie ? Bon, on en a encore quelques-uns qui ne savent pas que faire, donc on vous les envoie. Très bien. Et est-ce que vous avez encore quelques évangélistes pour nous, parce qu'on en manque cruellement ? Ah oui, ici on en a plein. Donc on vous les envoie. On vous les envoie. Et de cette manière, les églises font des partenariats. Et dans cette approche, il fallait ce qu'on appelait contextualiser le message, c'est-à-dire faire de la bonne nouvelle aussi une bonne nouvelle pour la société. Alors, il fallait traduire le message de l'Évangile en action sociale et politique, action contre la pauvreté et pour la justice et la paix. Et comme ça, les gens vont voir que c'est une bonne nouvelle pour eux, parce qu'il y a plus de paix, il y a moins d'injustice, etc. Et l'Église s'engage dans cette mission-là. Et puis, il ne faut pas faire cavalier seul, il y a d'autres religions, donc il faut un dialogue, et le mot dialogue voilà, est marqué sur les lèvres de tous les théologiens œcuméniques qui vous le sortent avant que vous le demandiez, parce que le dialogue, c'est la sauce qu'on met à toutes les pâtes. Et donc, mission, c'est ça. Et évidemment que ça a provoqué une réaction chez les protestants plutôt orthodoxes en théologie, conservateurs en théologie, chez les évangéliques qui disaient mais bon, non, c'est pas ça la mission. La mission, c'est comme ça a toujours été, l'évangélisation du monde. Donc il y a une polarisation et on va utiliser le mot contextualiser, mais avec une signification tout autre en disant il faut adapter la communication, pas le contenu, mais la communication à la culture. Il faut communiquer dans les termes, dans les idées, dans les traditions, dans le langage, dans les concepts d'une culture. Mais on ne change pas le contenu. Ça reste quand même Jésus est le Sauveur et le Seigneur, et il faut l'accepter en tant que tel, il faut se convertir, etc. etc. Donc, il n'y a pas de changement de contenu, mais plutôt de communication. Et puis, on va développer, en mettant les bouchées doubles, des stratégies, des nouveaux concepts, des peuples non atteints. On parle des mondes ABC, c'est-à-dire le monde évangélisé, non atteint, etc. Ce sont des trucs assez compliqués pour mobiliser le plus de monde pour une action concentrée sur les peuples non atteints pour accomplir au plus vite la grande commission, comme le disent les Anglais, le grand mandat, parce que à ce moment-là, Jésus va revenir et on a hâte de vivre ce jour-là, empressement eschatologique. Donc là, on est à des années de lumière des œcuméniques qui ne comprennent rien du tout à cela. Et les œcuméniques s'entendaient très bien avec le personnel des NGO qui n'aimaient pas trop entendre parler de conversion non plus. Mais côté évangélique, c'était un autre monde et on était taxé de tous les maux de vouloir priver les peuples de leur culture, de transformer la société en une société occidentale, etc. Oh là là, combien on était du mauvais côté. Et puis il y avait les catholiques et les orthodoxes qui étaient un peu entre les deux approches. Ce sont des équilibristes qui disent, voilà, qui sont comme des Normands, ben que non, ben que oui, un peu comme ça, ils ont là un peu de dialogue, un peu d'évangélisation, un peu de ceci et cela. Et eux, ils mettent l'accent sur la liturgie et la présence de l'Église. Ça, c'est très catholique et très orthodoxe. Voilà, il y avait donc une mise en tente énorme sur la question de la mission. Les orthodoxes, ils faisaient la mission en Russie et en Europe de l'Est d'une manière très simple, il faut chasser tous les autres. Voilà, donc leur mission était de rendre la vie la plus dure possible aux protestants, aux baptistes en particulier et aux pentecôtistes. Et comme ça, le terrain était réclamé pour les orthodoxes parce que c'est une terre orthodoxe. Et puis, il y a la liturgie et ça va bien. Et pour les catholiques, bon, tant qu'on n'intègre pas l'Église apostolique de Rome, on ne va pas vivre la plénitude du salut. Pour emprunter une expression des catholiques. Donc, on ne s'entendait pas. Et voilà, le magistère catholique, les conférences œcuméniques et les congrès évangéliques, ils sortaient des déclarations impressionnantes, mais très différentes les unes des autres. Mais petit à petit, il y a quand même davantage de consensus qui se crée sur deux points. Et ça, c'est très intéressant parce que ça rejoint aussi notre question, mais c'est quoi la mission ? Premier point où les positions se rapprochent. Dans la mission, il ne faut pas dissocier évangélisation et action sociale, et encore moins les opposer l'une à l'autre, mais la mission consiste à combiner les deux axes, les deux approches, les deux actions. Le convenant de Lausanne, déjà en 1974, a défini la mission comme une mission holistique, consistant en évangélisation, implantation d'église et action sociale. C'était sous l'inspiration des délégués de l'Amérique latine, qui ont toujours été très forts et qui ont mené le jeu pour ouvrir le concept ou l'idée de la mission à une vision plus large qui intègre également l'action sociale. Aujourd'hui, ça s'appelle la mission intégrale et c'est devenu un concept qui est plutôt privilégié au concept holistique, mais ça veut dire la même chose. La mission est une action combinée d'évangéliser et de mener des actions sociales afin que les gens soient convertis, la conversion personnelle et la société soient transformées. Voilà. Conversion et transformation sont les deux mots-clés de toutes les déclarations du monde évangélique. Dernièrement, l'engagement du Cap, où il y avait 4000 délégués du monde entier venant des églises et des organismes missionnaires évangéliques de toutes les langues et de tous les pays. On estime que c'était la plus grande convention chrétienne dans l'histoire, en termes de nombre et de nations représentées. Et là, il y a bien sûr une déclaration qui va être pondue à la fin de la rencontre. Et les deux mots-clés sont mission intégrale, conversion et transformation. Mais figurez-vous que la prochaine convention œcuménique sur la mission va se tenir à Séoul en août, avec le même thème, conversion et transformation. Donc on est même sur le même registre. Et on a invité des intervenants évangéliques également qui vont présenter des études de cas. Et ici en France, il y a une association de francophones œcuméniques de missiologie dont j'ai fait partie. Je ne sais pas par quel moustique ils se sont fait piquer de m'inviter, mais bon, je suis dedans. Et on va faire une assemblée générale sous le même thème. Et la dernière fois que j'étais là, les gens disaient ben, oh, ça serait bien d'avoir des témoignages de conversion. Alors, ça fait longtemps que j'ai entendu cela de la bouche des gens des églises libérales, œcuméniques et ça. Ah oui, il semble qu'il y a des maghrébins qui se convertissent. Oh, c'est intéressant cela. Et oui, j'ai entendu d'un pasteur à Paris qui était un peu intégriste, qui est devenu un pasteur très zélé, Saïd. Oui, donc je connais Saïd Oujibou, voilà. Et eux, ils étaient très intéressés par cela, donc on va faire une soirée autour des témoignages comme ça. Donc, on s'entend davantage sur ces deux axes. Et les deux paramètres sont, il n'y a pas seulement le grand mandat, the Great Commission, Matthieu 28, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les, enseignez-les, la mission d'évangéliser, mais ce grand mandat, d'ailleurs la Bible ne dit pas que c'est un grand mandat, ça c'est une invention que nous avons faite, c'est un terme qu'on y donne. Mais la Bible est sûre sur un point, il y a un grand commandement. Ça, c'est clair. Et quand on pose la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Le commandement le plus lourd, qui pèse le plus lourd, qui est le plus important, en Marc 12, il résume la loi en disant, la mission, notre mission est d'aimer Dieu et le prochain. Et quand on combine le grand mandat au grand commandement, vous avez mission holistique, mission intégrale qui vise et la conversion et la transformation de la vie des hommes et des femmes. Ça, c'est le premier point où on est en train de se trouver sur un même terrain, un terrain d'entente. Deuxièmement, on s'accorde davantage à dire qu'il faut trouver une théologie biblique de la mission. Bon, en tant qu'évangélique, on va dire « Ah oui, ça va de soi ». Non, ça ne va pas de soi, parce que les évangéliques, justement, n'ont pas fait depuis très longtemps une théologie biblique de la mission. L'approche évangélique était de dire « La mission, c'est Matthieu 28 ». Ah bon, pourquoi Matthieu 28? Pourquoi pas Matthieu 27? Pourquoi pas Marc 11? Pourquoi pas... Qui dit ça? Bon, c'est nous qui le disons. Et donc, on va décortiquer ce texte et on va en déduire des stratégies pour faire ce que Matthieu 28 nous dit. Mais une théologie biblique part d'une autre question. L'Église est envoyée. Mais pourquoi? Avec quelle tâche est-elle envoyée dans le monde? C'est une question ouverte. Et on part d'une question ouverte et on va parcourir toute la Bible pour trouver la question, dans la réponse à cette question. Et quand on pose la question ainsi, vous trouvez une réponse beaucoup plus large à la question « Mais c'est quoi la mission ?» que de prédéfinir la question par un verset choisi. Et comme on utilise la même approche aussi dans le monde œcuménique et aussi dans le monde catholique, là on se passionne pour la Bible parce que finalement on a le droit de la lire, donc on va la lire. Et on trouve des réponses qui se rapprochent des points de vue évangéliques. Et donc quand on lit toute la Bible, on va suivre les étapes du plan du salut de Dieu. C'est du plan de salut de Dieu ou du salut de Dieu? Là, j'ai trompé. Il y a des spécialistes ici dans la salle. Oui, ça ne vous choque pas trop? Ok, très bien. Donc, on ne commence pas à la fin d'un évangile, mais on commence à la première page de la Bible. Et à la première page de la Bible, vous trouvez déjà la première mission, c'est la mission de l'homme. C'est là où commence déjà la mission. Première page de la Bible, c'est très simple. Et on continue jusqu'à la dernière page où toutes les nations sont accueillies dans la présence de Dieu. Et donc, on est de retour à la première page où l'humanité était dans la présence de Dieu sur la terre. La mission de l'homme, aussi appelée le mandat créationnel. Et puis, Genèse 12 commence l'histoire d'Israël, un peuple avec une mission. Et de ce peuple va naître Jésus qui va poursuivre cette mission et qui va créer le cercle de disciples dont va naître l'Église, qui elle aussi est envoyée avec une mission. Et quand on lit la Bible ainsi, on va voir se dégager des lignes missionnaires qui traversent toute la Bible. Et on va voir, il y a une cohérence entre la mission de l'homme, la mission d'Israël, la mission de Jésus et la mission de l'Église. Ça, c'est très beau. Et bon, c'est pas moi qui le dis, il y a des gens qui écrivent des bouquins épais comme ça pour nous dire ce que je vous dis en deux mots. Et apparemment, c'est très compliqué, mais finalement, c'est très simple. Il y a une cohérence dans toute la Bible sur ce que c'est la mission de ceux que le Seigneur veut envoyer dans le monde. À commencer par la création, puis la création du peuple d'Israël, puis Jésus, puis l'Église. Donc voilà, jusque-là, ça va, vous êtes encore là. Bon, il y a dans certains milieux, le prédicateur va dire Amen pour se rassurer que vous ne dormez pas encore. Alors, je ne suis pas de ceux qui font cela. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez encore des questions sur les différentes approches? Ce n'est pas très intéressant. Hein. On va enterrer tous ces conflits, toutes ces haches de guerre théologique, et on passe à la Bible. Voilà. Est-ce que vous voulez trouver Jean 17, 18? Parce que moi, je n'arrive pas à montrer cela. Je vais encore essayer de faire cela. Parce que je suis en ligne. Ok. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est paramètres, imprimante. Ça, pour faire les deux écrans, comment est-ce que j'ai fait? Non, je n'arrive pas à le faire. Vous avez tous vos Bibles ou non? Oui? Oh, qui n'a pas de Bible? Mettez-vous à côté de ceux qui ont la parole. Bénis sont ceux qui lisent la parole, pas ceux qui la prêchent, mais ceux qui la lisent à haute voix sont bénis dans la Bible. Est-ce que quelqu'un veut lire à haute voix, chapitre 17, verset 18? C'est Jésus, où il prie le Père. 17, 18. Qui est le lecteur? Qui va nous...
Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde.
Voilà.
Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que aussi soient sanctifiés par la vérité.
Voilà. 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et puis, un peu plus loin, en Jean, Jean 20, 19. Est-ce que quelqu'un
Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ».
Oui, et vint. Oui.
Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur.
Oui, continuez.
Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ».
Et après ces paroles,
il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ».
Voilà. Ça suffit. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé ». Il disparaît tout le temps, c'est très embêtant ça. Mais, ok. Voilà, c'est le passage clé dans notre compréhension de la mission. Qu'est-ce que nous dit ce passage? Et on voit un déplacement de Matthieu 28 vers ce passage qui nous dit que la mission n'est pas une activité de l'Église parmi d'autres. Oui, on a une commission pour la mission, on fait un week-end et puis on passe à autre chose. C'est l'Église persécutée la semaine prochaine et puis après on a encore une soirée de guérison, de délivrance. Et puis on fait aussi une école de dimanche, on fait tout cela. Donc la mission, voilà, on fait quelque chose. Voilà. Non, ce texte nous dit que l'Église en tant que telle est missionnaire. C'est la nature de l'Église. Avant d'envoyer des personnes dans une mission quelconque, l'Église, dans son ensemble, est envoyée par Jésus-Christ, parce qu'ici, il s'adresse à l'Église en tant que telle, en leur donnant « Vous êtes des envoyés au même titre que moi, je suis un envoyé de Dieu. » Donc, ça veut dire que la question de la mission ne se pose pas « Nous sommes tous envoyés ». Ce n'est pas une mauvaise nouvelle que vous allez entendre après que vous vous êtes converti et après que vous ayez rejoint cette magnifique assemblée où tout va bien, sauf le jour où vous entendez qu'il faut quand même partir en mission. Ah non, l'Église, elle est envoyée, vous êtes envoyé le jour où vous vous confiez à Dieu. C'est ça. Vous êtes des envoyés, des apôtres. Nous sommes une Église apostolique, envoyée. Pas dans le sens où nos dirigeants sont dans une succession apostolique, ni dans le sens où notre pasteur a déjà créé 5 autres églises. Non, nous sommes tous apôtres. Et notre apôtre en chef, c'est l'apôtre de notre foi. C'est où dans la Bible? Jésus, l'apôtre de notre foi. C'est en hébreu. Il est l'apôtre de notre foi. Et donc, comme l'Église est envoyée par Jésus-Christ, Jésus-Christ est envoyé par Dieu. Nous avons donc vocation à participer à sa mission, ou dans sa mission, comme certains le disent. Et vous trouvez un résumé de la mission de Jésus en Luc 4, 18. Est-ce que quelqu'un veut lire 4, 18? 4, 18. Là, Jésus va décrire en quoi consiste sa mission. Et c'est très important parce que notre mission découle de cette mission. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Donc, pour savoir quelle est la mission de l'Église, il faut s'arrêter sur la mission du Christ. On est bien d'accord parce qu'il y a une corrélation. Luc 4, 18.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
Oui.
Je continue.
Oui.
Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur.
Voilà la mission de Jésus. C'était une mission très intégrale. Ça comprenait plusieurs aspects. Il y avait la guérison, la délivrance, le rétablissement, la liberté, la bonne nouvelle. Voilà, c'était la mission de Jésus. Et donc nous sommes dans le prolongement de cette mission. Mais ce texte nous dit encore quelque chose. Jésus, lui, est envoyé par le Père. Donc, Jésus, sa mission s'inscrit dans le plan de salut de Dieu, qui, depuis le début de notre histoire, après la chute et l'entrée du péché et du mal dans la création, était de sauver l'humanité, la réconcilier avec lui, établir son règne de justice et de shalom, de paix. Ça a toujours été le plan de Dieu. Ça s'appelle aussi la mission de Dieu, comme certains le disent. Quand vous entendez cela, ça veut dire donc le plan de salut de Dieu. Et notre mission est finalement de participer à cette mission que Dieu déploie et met en œuvre et pour laquelle il a envoyé Jésus. Et Jésus, avant Jésus, a peuple d'Israël, voilà, qui participe aussi. Au lieu de parler de la mission de Dieu, que je trouve un peu... c'est un terme qui ne fait pas l'unanimité, et dans nos milieux, c'est contesté aussi, ça, voilà, parce que c'est parfois un peu vague, ce que ça veut dire. Nous préférons parler d'une mission consistant en plusieurs missions, plurielles. C'est pourquoi j'ai donné le titre « Tous envoyés, la mission, nos missions plurielles dans le monde ». Car Jésus a envoyé ses disciples, à maintes reprises d'ailleurs, leur confiant plusieurs tâches à accomplir dans le monde. Et nous pouvons les résumer en quatre missions, quatre mandats. Et c'est ça ce que je veux vous présenter. Donc il y a une mission qui se décline en plusieurs missions concrètes. En tant qu'Église, nous sommes envoyés dans le monde pour, premièrement, c'est la première mission que Jésus confie à ses disciples, c'est de marcher dans les voies du Seigneur, de vivre selon ses commandements, comme Jésus les a enseignés au quotidien dans le monde. Quand Jésus a commencé à enseigner, c'était ça la mission qu'il a confiée aux disciples. Nous allons lire Matthieu 5. Donc on est au début du ministère de Jésus, Sermon sur la montagne. Et là, Jésus va nous montrer une voie résumée en 9 béatitudes. Et il va résumer ce que cela veut dire de vivre comme ça, de vivre en tant qu'Église, en tant que disciple. Et si vous voulez bien lire verset 13 jusqu'au 16, là vous avez la première fois que Jésus confie une mission, une raison d'être de ses disciples dans le monde.
C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux.
Ça, c'est ce qu'on appelle le mandat de disciple, le témoignage de notre vie personnelle. Et l'expression « lumière du monde », vous en connaissez l'arrière-plan, bien sûr. Dans la Bible, on a déjà entendu parler de la lumière du monde. C'était qui ? C'était le peuple d'Israël. Lumière du monde. Mais en quoi Israël était-il lumière ? En quoi Israël a-t-il illuminé les peuples ? En quoi a-t-il apporté quelque chose qu'on ne voyait pas ailleurs ? En quoi ? Ça consistait en quoi, être lumière du monde pour Israël ?
Servir Dieu.
Servir Dieu. Oui, tous les peuples pensent servir Dieu. Selon ses commandements, selon la Torah. Oui, donc, suivre, pratiquer la Torah, marcher dans les voies du Seigneur. Et là, votre lumière va briller. Donc, c'était au niveau pratique, au quotidien, qu'il fallait suivre les voies du Seigneur. Et ça serait une lumière dans le monde. Et quand vous lisez ce texte, en quoi consiste la lumière des chrétiens ? C'est marqué explicitement. C'est quoi la lumière ? Bonnes œuvres, oui, exactement. C'est le bien que vous faites. On a très souvent tendance à combiner lumière à l'évangélisation. Il faut faire briller la lumière, la lumière. Mais le texte ne dit pas forcément qu'il faut évangéliser, mais le texte dit bien, qu'il faut faire du bien en suivant la voie montrée par les béatitudes. C'est un résumé d'un style de vie, un mode de vie qui s'inscrit dans la volonté de Dieu et ça fait de vous la lumière du monde. Et c'est un mandat parce que ça se fait au regard et en présence du monde. Ce n'est pas quelque chose de caché, mais c'est une mission à accomplir dans le monde. Donc on peut dire que notre quotidien, c'est notre mission. C'est une mission que Jésus nous confie. Un quotidien transformé par son enseignement. Et ça met en valeur toutes nos activités de tous les jours. Et c'est là où mission commence. C'est le témoignage de notre vie personnelle. Deuxièmement, Jésus insiste beaucoup sur l'amour fraternel et sur l'unité entre les disciples. Déjà, les 12 formaient une bande assez disparate, il y avait de tout dedans, mais il fallait être un. Et quand il a dit qu'il fallait aller à la rencontre d'autres nations, d'autres peuples, on savait très bien que ça allait compliquer les choses, mais vraiment, parce que vous faites entrer des Grecs et des Romains et des Italiens et des Espagnols et des Allemands et des Germaniques et des Arabes, voilà là, c'est la pagaille totale, sauf que c'est la vocation, justement, de vivre comme ça la communauté des croyants. Et là aussi, on peut parler d'un mandat, d'une mission, de témoignage de notre vie d'Église, parce que c'est quelque chose qui, en soi, est une mission à accomplir dans le monde. Et je vous invite à lire deux passages sur ce sujet. Déjà, on peut penser au sermon dans la montagne où Jésus dit que nous sommes comme une cité sur une montagne, donc ça parle peut-être déjà d'un collectif, mais il est beaucoup plus clair en l'évangile de Jean, au chapitre 13. J'ai vérifié le verset parce que je me trompe toujours. Jean 13, à la fin 30... Allez, je suis en train. Voilà, 34 et 35. Est-ce que quelqu'un veut lire Jean 13, 34, 35. 35.
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres.
Est-ce que vous voyez l'aspect missionnaire dedans? C'est quoi l'aspect missionnaire? Est-ce que vous le voyez? Les autres vont voir. Qu'est-ce qui va se passer? Les autres vont voir quoi? Non, c'est pas ça. Ils vont reconnaître que vous appartenons, que nous appartenons à Jésus-Christ. C'est un témoignage de notre foi, illustré par l'Église. Et donc, l'amour fraternel est une mission à accomplir dans le monde. Il y a un missionnaire anglais qui a écrit un très beau livre sur cela, et ce qui s'appelle Church Before the Watching World. Et c'est un très beau titre qui se traduit un peu comme ça. Être Église devant l'Église qui vous regarde. Devant le monde qui vous regarde. Être Église devant le monde qui vous regarde. C'est un don. Et il dit, c'est un commandement nouveau que de vous aimer les uns les autres. En quoi ce commandement est-il nouveau? Ce commandement est bien dans l'Ancien Testament aussi. En quoi ce commandement est-il nouveau? C'est quoi? Ce n'était pas marqué.
Comme je vous ai aimé.
Alors, ça veut dire?
Comme Jésus a aimé ses disciples.
Voilà. Et donc, c'est un amour. En quoi cet amour est-il autre que l'amour déjà connu dans l'Ancien Testament?
C'est un amour. Il a donné sa vie.
Oui. Donc, ça va jusqu'à donner sa vie et à aimer les ennemis. Parce que dans l'Église, justement, nos ennemis sont réconciliés. Qu'est-ce que nous dit Éphésiens 2? Autrefois ennemis, nous sommes réconciliés. Les Juifs et les païens. Donc, on peut parler d'une mission de pratiquer l'amour fraternel. Autre passage qui est encore plus éloquent, c'est encore dans Jean 17, cette prière dite sacerdotale, je ne sais pas pourquoi on le dit, mais bon, c'est ce qu'on dit, où Jésus prie à l'endroit de ses disciples et donc à l'endroit de... Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, c'est bien pratique, hein, dans la Bible. Oui, c'est bien pratique. Oui, moi, j'ai toujours sur moi, parce qu'on ne sait jamais. Quand, parfois, il y a des pasteurs qui lisent la Bible. Jean 17, 17, oui, on a déjà lu. Et on va continuer au verset 20. Et 21. Jean 17, 20, 21. On a déjà vu
ce verset précédent. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront à moi, grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé.
Voilà. C'est quoi l'aspect missionnaire, selon le texte?
L'unité.
Oui, mais l'enjeu missionnaire de cela. Oui, il prie pour l'unité, ça c'est clair. Mais il y a un enjeu missionnaire là.
Pour que le monde croit.
Oui, c'est ça l'enjeu missionnaire. Donc notre unité est une mission à accomplir dans le monde, pour que le monde croit. Est-ce que vous saisissez la portée de tout cela? Ça veut dire que la vie d'Église n'est pas une affaire isolée du monde, mais quelque chose qui a une fonction missionnaire. C'est ça ce qui va rendre notre témoignage audible, visible, lisible, voire crédible. Et c'est bien ce qui s'est passé dans les églises primitives, parce que là, il y avait quelque chose qui était inédite et qu'on ne croyait pas possible, c'est que des esclaves et des maîtres se mettaient autour d'une même table, à pied d'égalité, que des juifs et des non-juifs mangeaient à une même table, sans se mordre. Bon, parfois, ça n'allait pas très bien, mais grosso modo, ça allait assez bien. Et c'était un témoignage incroyable dans un monde divisé par les frontières ethniques, linguistiques, sociales, économiques, et je pense. Donc cette unité n'est pas une mince affaire, mais c'est quelque chose à construire et à développer, à creuser et à vivre pour que le monde croit. Donc Jésus met quand même un enjeu missionnaire avec la vie d'Église. Donc nous sommes, notre deuxième mission, on peut dire, c'est un mandat communautaire, c'est le témoignage de notre vie d'Église, basé sur un amour fraternel et l'unité au-delà des barrières sociales, culturelles et politiques. Juste une parenthèse, dans le Nouveau Testament, on ne lit jamais « Je prie pour que leur culte soit attrayant, afin que le monde croie ». C'est bien d'avoir des cultes attrayants, je n'ai rien contre. Mais il n'y a pas de passage qui nous incite à cela. Au contraire, dans les églises primitives, les cultes étaient plutôt réservés aux croyants. Ce n'était pas quelque chose qui se faisait partout, en invitant tout le monde. C'était plutôt la manière dont les chrétiens prenaient soin les uns des autres et s'acceptaient, s'accueillaient les uns les autres, que l'entourage était interpellé. Et c'est bien ce que Jésus avait dit. C'est bien ce que Jésus avait dit. Donc il y a ces deux paramètres, amour fraternel et unité au-delà des barrières sociales. Unité ne veut pas dire uniformité. On est bien d'accord. Les hébraïstes parmi nous, le mot hébreu pour un, Echad. Et quand est-ce que ce mot apparaît dans la Bible déjà? Déjà dès le début. Ah oui. Alors. Non. Non, c'est quand on parle de l'homme qui va quitter ses parents, chercher une femme quelque part, et les deux seront un, Echad. Bon, j'espère quand même que la femme reste une femme et que l'homme reste une femme, un homme, voilà. Ils n'ont pas vocation à se transmuer. Cette unité ne change pas leur nature, mais il y a une unité qui les comprend dans leur propre identité. Dans le Nouveau Testament, ce mot apparaît en Éphésiens 2, où Paul dit du peuple juif et des païens que le Seigneur est en train de faire de ces deux un, Echad. Ça ne veut pas dire qu'un juif devient gentil, bien que les juifs ont vocation à être gentils, mais pas devenir un non-juif, et que les non-juifs n'ont pas vocation à devenir juifs, mais d'être unis dans leur diversité en Christ. Et c'est ça, cette unité qu'il faut comprendre à la lumière de l'Ancien Testament. Donc ça, c'est le deuxième mandat décliné par le Seigneur dans les évangiles. Il a beaucoup parlé de cela tout au long de son ministère, et vers la fin, il va expressément mettre les points sur les i concernant la vocation de vivre l'amour fraternel et l'unité. Oh, là, j'ai fait une erreur. Excusez-moi, parce que là, il y a quelque chose qui s'est glissé dedans. Parfois, ce truc joue des tours. Ça paraît miracle des miracles. Troisièmement, il y a comme une mission de pratiquer l'amour du prochain par des œuvres de miséricorde, par un service à la société, et la lutte pour la justice. Bon, il y a plusieurs manières de désigner cette mission de pratiquer l'amour du prochain. On peut dire le mandat social. Oh là là, est-ce que je suis bête. Parce que j'avais mis mission et donc je n'avais pas corrigé l'autre. Ok. C'est un truc en construction. Oh, et maintenant vous l'avez plus. Ok. On va faire le détour. Voilà, ça disparaît et ça réapparaît. Le témoignage de nos actes. Est-ce que vous voulez bien lire en Luc, au chapitre 10? C'est la fameuse parabole du Samaritain. Selon la Bible française, il est bon. Selon la Bible allemande ou néerlandaise, il est miséricordieux. Bon. C'était un Samaritain. Et alors, vous connaissez l'histoire, mais est-ce que quelqu'un veut lire au verset 36 et 37.
Lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va, et toi, fais de même.
Voilà. Vous connaissez la réponse, hein? La question était l'amour du prochain, etc. Qui est mon prochain? Donc celui à qui vous faites miséricorde. Mais quel est l'enjeu missionnaire? Quel est l'aspect missionnaire dans ce passage?
C'est le prochain.
Oui, lisez, lisez. Non, il faut lire. Oui, mais quel est le mot? Allez-vous-en, va. C'est un envoi. Vous êtes envoyé. C'est un mot d'envoi. C'est le même mot qu'en Matthieu 28. Allez dans le monde entier. Va, fais de même. Allez prêcher la bonne nouvelle. Allez, faites comme le bon samaritain. C'est un envoi. Il y a un envoi pour faire justement cela. Donc, il y a un aspect missionnaire dedans. Et tout au long de son ministère, Jésus a insisté aussi sur l'amour du prochain, sur l'amour montré aux ennemis de notre foi, de nos convictions. Et plus tard, en Matthieu 25, il va parler des gens qui ont fait des œuvres de miséricorde auprès de ses frères, de ses petits frères, hein, les petits frères. Et plus tard, Paul va dire en Galates 6, c'est peut-être bien de lire, Galates 6, c'est un verset très souvent cité. Galates 6 au verset 10, est-ce que quelqu'un veut lire?
Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants.
Donc il y a une mission, comme un mandat, comme un commandement de pratiquer le bien envers tous. Il y a aussi la prière pour les autorités, il y a déjà dans le sermon sur la montagne, il faut, on reçoit la consigne de chercher tout d'abord le royaume de Dieu et la justice de ce royaume. Donc c'est la lutte pour la justice ou la recherche de la justice. Et tout cela se traduit aussi par un engagement auprès de nos contemporains, auprès de nos prochains, et donc pratiquer l'amour du prochain. C'est le témoignage de nos actes, un mandat social. On peut le développer, mais déjà en écoutant le Seigneur Jésus, on voit déjà se dessiner cet aspect de notre mission. Nous avons vocation à témoigner au travers de nos actes. Et ensuite, le dernier mandat que Jésus confie, juste avant de quitter ses disciples définitivement, juste avant son ascension, il va leur confier une mission de la plus haute importance, mais qu'il n'avait pas encore confiée dans le même terme. Et Marc 15, c'est peut-être bien de lire cela, Marc 15. Non, peut-être Luc 24, c'est une version plus intéressante encore. Luc 24. Il y a plusieurs versions dans la Bible. Matthieu vers la fin, Matthieu 28. Marc à la fin, Marc 15. Acte 1, verset 8, vous serez mes témoins. Mais en Luc 24, la manière dont Jésus confie cette tâche est intéressante parce que... On commence par verset 44 jusqu'au 48. C'est ce qu'il dit aux disciples qui vont à Emmaüs.
Puis il leur dit, c'est là que je vous disais...
Attendez, parce que vous aurez le micro. Ah. D'accord. 44 jusqu'à 44.
Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures.
Oui, versets 46 et 47 et 48.
Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoin de ces choses.
Voilà. Et plus tard, dans les actes, il va répéter cela, vous serez mes témoins. Donc, la mission est de prêcher la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir mais quelle est la source utilisée par Jésus pour montrer ce mandat. Non, la source.
La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes.
Moïse, les prophètes et les psaumes. C'est là qu'il est écrit qu'il fallait aller vers les nations. Est-ce que vous avez déjà trouvé cela dans l'Ancien Testament? Apparemment, c'est dedans. Ce que Moïse, prophète et les psaumes, c'est quoi? C'est trois, ceux qui connaissent la Bible. Les trois. Il y a Moïse, prophète et psaume. Ça signifie quoi dans la Bible, Ancien Testament, la Bible hébraïque? Tanar, et ça veut dire Tanar, Torah, donc Moïse, Nevim, prophète, et et les écrits qui commencent par les psaumes. Donc, ça veut dire qu'il a parcouru toutes les trois parties de la Bible hébraïque pour nous montrer cela. Et donc, apparemment, vous allez chercher, mais apparemment, c'est dans la Bible parce que Jésus a montré dans l'Ancien Testament le mandat d'évangéliser les nations. Donc, ça, c'est une question que vous allez vous poser si je ne vous dévoile pas les sources. Mais on peut comprendre que là, il y a un mandat d'évangéliser et c'est le témoignage de nos paroles. Donc, voilà les quatre mandats qui ensemble constituent notre mission, les différentes missions qui ensemble constituent notre mission dans le monde. Nous avons vocation à vivre notre foi au quotidien, ce sera le témoignage de notre vie personnelle. Nous avons vocation à vivre la communion fraternelle et l'unité en Christ dans la communauté d'église, ça sera le témoignage de notre vie d'église. Nous avons vocation à pratiquer l'amour du prochain, à l'exemple du Samaritain. Ça sera notre témoignage, le témoignage de nos actes. Et nous avons vocation à communiquer la parole de Dieu, l'Évangile, le salut en Jésus-Christ. Inviter nos prochains à la foi, à la conversion, ça sera le témoignage de nos paroles. Et quand on met tout cela ensemble, vous avez, je pense, une vision globale, complète de la mission au sens large et du terme. Et je termine avec quelques remarques avant de vous laisser la parole. La mission, d'abord, est plus large que l'évangélisation. Et c'est justement là où la confusion a commencé quand on a défini la mission uniquement par évangéliser le monde entier. Parce que là, on a dit à juste titre, mais il y a encore autre chose à faire aussi. Mais bon, ce n'est pas mission, mais qu'est-ce que c'est que ça alors? Aujourd'hui, dans les déclarations et les textes fondamentaux, on parle toujours de mission et évangélisation. Pour dire que la dernière est une mission parmi d'autres. La mission, c'est tous les mandats, y compris l'évangélisation. Mais pas uniquement. Là, il y a un problème. Parce que dans notre langage, et encore toujours, Église et œuvre missionnaire associent le terme mission au mandat particulier de communiquer l'Évangile à tous les peuples du monde. Donc, mission évangélisée. Et on a la missiologie, qui est une discipline dans la théologie, qui étudie justement l'histoire et la théologie de la mission dans ce sens spécifique. On ne peut pas enlever cela, ça ne change pas. C'est devenu partie intégrante de notre langage de parler de la mission en termes de évangéliser. Donc, il faut comprendre qu'il y a une distinction entre la mission dans le langage chrétien, qui veut très souvent dire évangélisation, là on se comprend, mais il y a aussi le concept théologique de la mission de l'Église, au singulier, au sens large du terme, qui comprend tout ce pourquoi nous sommes envoyés dans le monde, donc tous les mandats. J'avoue que c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça, je ne change pas la donne, je n'ai pas vocation à la changer d'ailleurs, mais quand on parle de la mission au sens biblique du terme, on parle de tous les mandats missionnaires qui nous ont été confiés par le Seigneur, dont celui d'évangéliser. Mais dans notre langage, au jour le jour, on associe mission surtout à évangéliser. C'est pourquoi certains abandonnent le mot mission dans l'évangélisation et parlent de l'évangélisation. Par exemple, il y a une mission qui s'appelle EVEC, World Evangelization for Christ, autrefois Crusade, c'est évangélisation mondiale pour le Christ. Là, on parle d'évangélisation. Et on laisse tomber le mot mission parce que c'est un mot qui peut nous rendre les choses un peu confuses. Parce que évangéliser, c'est une action claire. Évangéliser, c'est, ça veut dire ce que ça veut dire. Tandis que le mot mission, il faut mettre un mot avec. Et dans le monde catholique, par exemple, on parle presque toujours d'évangéliser. Évangélisation. Ou la nouvelle évangélisation. Et nous dirions mission, mais eux disent évangélisation. Et il y a de quoi dire pour cela. En tout cas, c'est plus clair. Donc, il y a la mission au sens large, et mission spécifique, qui est évangélisation. Voilà, c'est ça un peu le... Il faut faire avec. Parfois, on essaye de trouver d'autres termes, par exemple, le mandat... de mandat d'évangélisation, de mandat évangéliser. Bon. Tant qu'on comprend que notre mission d'évangéliser est une mission parmi d'autres. Et c'est ça ce que veut dire mission intégrale, ou mission holistique, ou mission de Dieu. Ce sont tous des tentatives de nous faire comprendre que notre mission est un ensemble. Et il ne faut pas dissocier. Voilà pour ce survol très, très rapide d'une approche biblique de la mission consistant en plusieurs missions. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire? Voilà, Wolfgang.
Juste une petite remarque pour la toute dernière chose. En allemand, on a un verbe, missionner. Une petite remarque, en allemand, oui. Ils ont fait un verbe... missionner, donc qui vient, et qui est très très péjoratif, qui est vraiment perçu comme essayer de convaincre ce que font les témoins de Jéhovah.
Oui.
Et alors que le mot évangéliser, il passe bien. Donc oui. ça illustre un peu ce que tu
oui.
dis.
Oui. Voilà. Oui. Oui, c'est vrai. Donc en allemand, le mot mission a mauvaise presse.
Non, le mot mission, ça va, mais le verbe, ça va.
Ah, missionner, faire la mission. Il y a missionnier. Oui. Ici, on dirait plutôt le prosélytisme voilà. ou quelque chose comme ça. Oui. Et le mot mission aussi a parfois mauvaise presse. Et évangéliser, c'est plus, oui, c'est plus notre main d'obstacle. C'est vrai, c'est vrai. Merci de cette remarque.
D'après votre terminologie, est-ce que la mission, ça se situe en dehors de contexte français, puisque nous sommes un pays d'origine française, mais que nous accueillons des Espagnols, des Portugais, toutes les portes sont ouvertes. Il y a des Allemands, il y a de tout. Alors, est-ce que...
Alléluia. Ou non.
Est-ce que notre mission, c'est dans nos frontières ou hors de nos frontières?
Les deux. Dans la Bible, vous ne trouvez pas de distinction entre mission au loin et évangélisation auprès. Ça, c'est une distinction qu'on a créée pendant les derniers siècles, quand on a créé des œuvres missionnaires en dehors de l'Europe. Et on disait, dans notre propre pays, ça sera évangélisation. Mais cette distinction ne tient plus la route, parce que, d'une part, le travail reste le même, annoncer l'Évangile, et la différence entre un monde christianisé et un monde non christianisé a quasiment disparu. Donc, il n'y a pas de distinction géographique entre la mission d'évangéliser en France ou ailleurs. C'est la même chose. Et par ailleurs, on parlait de mission intérieure et de mission extérieure. Mais ce sont des distinctions qui ne s'appliquent plus. Non. Mais dans nos têtes, encore... Très souvent, on a cette image, la mission, c'est quelque chose qui se passe en Afrique, et c'est quelque chose d'exotique, qu'il faut partir, et voilà, c'est ça. Mais ce n'est plus la réalité. La mission se fait partout, la mission d'évangéliser se fait partout. Il n'y a pas de distinction géographique. C'est plutôt, je pense, un héritage de notre passé que de penser. Oui.
Je trouve très intéressant par rapport aux différents mandats, très intéressant, très encourageant, parce qu'en fait, personne ne peut dire la mission c'est pas pour moi parce que je suis pas un évangéliste.
Oui.
Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que la mission touche à la fois notre vie personnelle, la vie d'église, nos actes et nos paroles.
Oui.
Donc personne ne peut se dire, mais c'est pas pour moi la mission.
Non.
C'est, je trouve que c'est très responsabilisant. D'accord. Et ça aussi, ça nous défie d'avoir une communion avec Dieu. Sans communion avec Dieu, il n'y a pas de vie personnelle, il n'y a pas de vie d'église, il n'y a pas de témoignage des actes, il n'y a pas de base de nos paroles. Quoi.
Ouais, c'est la base.
Sinon, on se force à être missionnaire.
Ouais.
Donc, je trouve que c'est très intéressant. Puis, je vous remercie beaucoup pour ces différents mandats parce que moi, ça m'ouvre les yeux sur beaucoup de choses.
Ouais.
Je vous remercie.
Ouais. D'où le titre « Tous envoyés ».
Exactement.
Il y a de la place pour tous. Là. Mission pour tous.
Alors, vous avez parlé au tout début du verset « Allez, faites de toutes les nations des disciples
oui. »
qui a été interprété au fil des siècles
d'une
certaine manière, qui est encore assez présent dans les églises aujourd'hui de différentes dénominations. Et je pense à un verset qui est souvent utilisé aussi pour ne pas se préoccuper peut-être de toutes les nations un peu trop loin. C'est « Vous serez mes témoins à Jérusalem ». Judée,
oui.
Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et souvent, on entend lire un peu ce verset comme vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem.
Oui.
C'est une interprétation aussi voilà,
oui.
qui perdure dans différents lieux. Pour dire, on a tellement à faire ici que voilà, on ne peut pas s'éparpiller et être un peu partout. Alors que le mandat,
oui.
c'est quand même dès la Genèse, il y a, tout au long de la Bible, il y a cette préoccupation de Dieu de faire connaître son amour et son plan de salut pour toutes les nations.
Oui, oui, voilà. Oui, ça c'est vrai. Je vous remercie de cette remarque. Et après la pause, j'aimerais bien parler d'une vision mondiale pour l'Église locale. Et là, je vais reprendre justement ce point. Justement. Donc, rappelez-moi de ce que vous venez de dire. D'autres remarques ou questions? Non, ça va? Bon, très bien. On va marquer la pause.